Compte tenu de l'introduction qui vient d'être faite, je viens ici, je suis assez éloignée en fait, je suis pas proche des réseaux des organisateurs du colloque. Je suis politiste et je travaille sur l'analyse des politiques publiques urbaines. Et pour essayer de le dire vite, je fais partie d'un courant, d'une génération de chercheurs qui participent modestement, mais motivés à un certain renouveau d'une critique urbaine. Il y a controverse à l'intérieur de la science politique, et mes travaux tentent d'alimenter cette controverse autour de ville-providence ou ville-entrepreneuriale, pour aller très vite. Donc les cas d'analyse sont des cas d'analyse, les cas d'analyse que j'emprunte et que je teste sont des cas d'analyse issus d'une critique radicale néo-marxiste qui parle de néolibéralisation des politiques urbaines. Alors, pour le dire vite encore, avec cette idée de néolibéralisation des politiques urbaines, l'idée forte, d'Harvey Pectical, c'est de dire que les politiques urbaines contemporaines seraient au service, pour reprendre là encore les mots de l'introduction de ce colloque, seraient au service de l'accumulation capitalistique, tendraient à entretenir, voire à accentuer les inégalités socio-spatiales des sociétés post-fordistes, plutôt qu'à chercher à les contrecarrer, plutôt qu'avoir une priorité redistributive. Alors, par rapport à l'importation de ces cas d'analyse en France, il y a une controverse. Là encore, je vais faire ça un petit peu à la hache. Mais, Patrick Le Gallès défend l'idée, à travers son ouvrage notamment sur le retour des villes européennes, et ça s'inscrit dans des controverses avec le monde anglo-saxon essentiellement, que ces villes européennes sont relativement protégées par l'histoire longue d'une régulation publique à la fois nationale et locale, et qu'on n'est pas dans les schémas de dualisation, et qu'on est peut-être, et que la néolibération n'a peut-être pas encore de réalité dans ces villes européennes. Et puis, la génération, on est un peu tous des bébés de Galès, Pinson, Régnier, on tend à dire que cette hypothèse de néolibéralisation, elle devient crédible. Alors, deux facettes commencent à être bien renseignées par les travaux français. La première facette, qui reprend l'idée de politique urbaine dont l'objectif central serait de renforcer l'attractivité territoriale par l'image et la promotion d'une qualité de vie en ville. C'était les travaux de Jouve, et puis récemment les travaux de Béal, les travaux de Pinson. La deuxième facette qui est renseignée en termes de gouvernance tend à insister sur une certaine dérive oligarchique de la gouvernance urbaine. Là encore, par rapport au mot de l'introduction, on nous disait que ces problèmes publics échappaient aux scènes, au débat, étaient dépolitisés. Et la troisième facette sur laquelle je me penche plus particulièrement aujourd'hui et qui me semble moins renseignée par les travaux, en tout cas de sciences politiques en France, c'est la facette de gouvernementalisation des conduites, c'est-à-dire que ce processus de néolibéralisation d'action publique, cette quête du good business climate, s'accompagnerait de la mise en place de mécanismes de contrôle social de l'espace et des populations qui y circulent, des mécanismes visant à assainir et à discipliner certains types d'usages et d'usagers de la ville. Donc c'est vraiment sur cette facette-là que va porter ma présentation aujourd'hui. Alors mon hypothèse, peut-on parler d'une gouvernementalisation néo-hygiéniste, néolibérale des conduites pour caractériser les politiques urbaines contemporaines en France? Et l'objet de recherche sur lequel je travaille depuis déjà quelques années, ce sont les politiques urbaines de transport et de déplacement. Alors, ces politiques urbaines de transport et de déplacement, elles sont intéressantes, elles donnent des prises aux chercheurs. C'est un objet un peu technique qui n'est pas forcément un objet de réflexion dans l'analyse des politiques publiques. Et pourtant, ce sont des politiques pivots qui donnent à voir, et au sens propre du terme, les stratégies de développement des villes par le biais de l'évolution projetée des réseaux et des flux. Donc c'est quand même du lourd dans l'organisation et la structuration des villes et de leurs projets, ces politiques de transport et de déplacement. Elles donnent lieu à un exercice obligatoire de planification dans les villes de plus de 100 000 habitants, ce sont les plans de déplacement urbain. Donc ces documents de planification sont facilement consultables, sont en ligne, donc faciles à récupérer et à étudier. Ces documents projettent sur le sol, quand je dis que ça donne à voir au sens propre, c'est-à-dire qu'on a des, on a vraiment des cartes, on a vraiment des matériaux assez à la fois faciles d'accès et qui renseignent vraiment ces projets urbains. En projetant sur le sol un avenir souhaitable explicité, alors j'ai quelques exemples, le tracé du tramway, le périmètre du futur péage urbain, ça arrive, le tracé de la future de l'anneau de contournement de la rocade, les espaces protégés de l'automobile, les nœuds. Et puis ces documents, en même temps qu'ils nous projettent sur le sol un futur souhaitable, un avenir idéal, nous livrent aussi le mode d'emploi attendu en termes d'usage et d'usagers de ces réseaux et de ces équipements publics. Donc voilà, en tout cas, ces politiques publiques donnent des prises intéressantes aux chercheurs, d'autant que l'élaboration et le déploiement de ces politiques publiques s'accompagnent d'une très large communication institutionnelle et de procédures de débat public. Donc, on a les documents de planification, on a aussi tout un tas de plaquettes institutionnelles, de plaquettes pédagogiques, de plaquettes de communication, qui sont autant de matériaux pour le chercheur. Alors, moi, je travaille sur ces matériaux-là, mais je m'intéresse aussi à la mise en œuvre, au déploiement de l'action publique, dont je parlerai peut-être un petit peu moins aujourd'hui. Alors, ma présentation, je vais faire une présentation en trois temps. Premier temps, une idée. Alors, j'ai pas pu dans la communication utiliser cette iconographie des plans de déplacement urbain parce qu'il y a plein de problèmes de copyright. Alors, je me fais plaisir dans la présentation orale en vous livrant un petit échantillon de ce sur quoi on tombe quand on s'intéresse à cette communication institutionnelle empreinte de marketing urbain. Alors là, vous avez une petite... À gauche, le GARD, c'est le groupement des autorités responsables des transports. Et donc, j'ai mis plaquette pédagogique. C'est un document en ligne. Mais voilà, ça fait écho aussi à ce dont vous allez parler après. Donc, premier temps, première idée forte. La mise en avant de la responsabilité individuelle est très forte dans le cadrage de ces problèmes publics. Alors, cette mise en avant de la responsabilité individuelle n'est pas spécifique au domaine des transports et des déplacements. C'est une tendance lourde. Les citoyens sont considérés comme responsables de leur sort. Et cette tendance lourde est repérable dans le cadrage des problèmes publics en matière de transport alternatif à l'automobile. Et pour faire quelques zooms, l'espèce de concept clé mis en avant dans ces politiques publiques, c'est la notion de libre choix modal. Alors avec cette idée du libre choix modal, il y a l'idée derrière que l'amélioration de l'offre en déplacement alternative à l'automobile on fait l'hypothèse que l'automobiliste opérera un transfert vers ses modes alternatifs, que l'individu, par ses choix en matière de mode de transport, détiendrait les clés de la diminution du trafic automobile et des nuisances engendrées par ce trafic automobile. Donc, ça, c'est vraiment le raisonnement qui domine dans le cadrage de ces politiques publiques. Alors, j'irai vite sur le deuxième temps, mais on a plein de travaux académiques qui, au contraire, mettent l'accent sur l'importance d'un système automobile, d'une dépendance automobile. Là, ce sont des travaux, il y a Gabriel Dupuis, évidemment, tout un tas de travaux en socio-économie des transports qui insistent sur les effets de système et sur la marge de manœuvre, finalement, étroite des usagers en matière de choix modal. Alors, c'est lié à la fragmentation des territoires de la vie quotidienne, aux distances croissantes à parcourir, à la fragmentation du travail, du temps partiel, de l'intérim, des horaires décalés qui font que les transports publics ne sont pas adaptés. Bon, on a un tas de travaux en socio-économie des transports qui contrent fortement ce espèce de paradigme du libre choix modal qui s'impose dans la communication institutionnelle des autorités responsables des transports. Donc, voilà, un champ d'action publique porteur d'une certaine vision atomisée du social, où les problèmes sont largement dépolitisés, où ces politiques publiques sont légitimées par l'évocation de nobles causes, la préservation d'un environnement acceptable pour les générations futures, espèce d'argument massue difficile à soumettre à la critique, la préservation de la santé et de la sécurité. Donc, de nobles causes qui s'imposent comme des évidences et qui vont imposer de bonnes façons de se comporter, de bons comportements. Voilà, donc c'est le deuxième temps. Le cadrage des problèmes en termes de responsabilité individuelle rend possible, dans un second temps, une catégorisation, une mise en ordre des usagers, avec des usagers idéaux. Voilà, je vous ai fait un petit patchwork de, en piochant dans, dans l'iconographie des PDU de l'île française. Et puis, versus usagers repoussoirs. Alors, ces usagers repoussoirs, eux, ne sont pas représentés. Ils sont en creux, ils sont absents, ils sont impensés. Voilà, on les trouve plus en creux. Donc, quelques mots sur ce deuxième temps. Donc, dans les plans de déplacement urbain, on nous présente les bonnes mœurs citadines. Ce que c'est qu'un... À la fois, c'est une promotion de l'urbanité dans les deux sens du terme. C'est l'urbanité dans sa dimension spatiale, avec une mixité fonctionnelle et une densité. Et puis, c'est aussi une urbanité au sens de des comportements urbains, des bons comportements, de bonnes mœurs citadines, à la fois en matière de choix résidentiel, en matière de déplacement, de comportements sociaux, citoyens, civils, conviviaux. Donc, cette planification de ces politiques publiques va projeter des images fantasmées, des images repoussoires. Elle va nous dessiner les contours de catégories d'usagers citoyens vertueux, écolo-responsables, et puis en creux, d'usagers citadins, écolo-résistants, stigmatisés. Et ce qui est intéressant, enfin, ce qui est une idée forte, c'est que logique sociale, c'est-à-dire rôle sociaux et pratiques, et logique spatiale, lieu, type et qualité de l'espace, sont combinés dans cette iconographie pour suggérer qui peut circuler dans les différents lieux de la ville idéale projetée. Alors, quelques exemples. Parmi les figures les plus emblématiques, au coude à coude, on trouve le cycliste et le marcheur. Hein, grâce à eux, il s'agit de libérer la ville de l'automobile et de ses nuisances, et l'on fait d'une pierre deux coups pour la santé publique en limitant à la fois la pollution et les conséquences négatives de la sédentarité. Alors, voilà, cette iconographie des PDU dont vous avez un tout petit aperçu ici, elle nous immerge dans une ville idéale, investie par des cyclistes épanouis. Elle permet aux piétons, piétonnes, citadines, souvent blanches, en pleine santé, dans la force de l'âge, de promener leurs enfants en poussette. Il y a beaucoup de poussettes dans les PDU. Le tout avec pour décor la ville historique et patrimoniale, avec ses terrasses de café et ses commerces. Cette représentation des usagers des modes doux dans la ville durable est largement un fantasme. Je me suis amusée à regarder les dernières enquêtes transport-déplacement. Les piétons et les cyclistes sont avant tout des inactifs, et quand ils sont actifs, ce sont des classes populaires. Donc ces représentations sont largement en décalage avec les réalités statistiques des vrais usagers de ces modes. Alors l'idée forte qu'il y a derrière, c'est que, et là encore, là je rejoins mes cas d'analyse macro du début, c'est que plutôt que de s'adapter aux usagers des statistiques, aux usagers réels de ces modes, on a en fait des politiques publiques qui veulent changer l'image. Il y a vraiment une volonté de changer l'image des usagers de ces modes. Vraiment une dimension marketing urbain très forte. Et pour employer les mots du marketing, plutôt que de travailler sur la clientèle existante, il faut changer la cible, il faut monter en gamme. C'est très net avec le vélo. Et troisième temps de mon propos, finalement, au-delà de cette catégorisation des usagers vertueux et des usagers repoussoirs, on se demande si, je m'interroge sur le fait que plus globalement, ces politiques publiques ne visent pas à opérer un tri social et un tri spatial dans la ville durable. Alors, la promotion de ces figures vertueuses s'accompagne de stigmatisation d'autres catégories qu'on ne voit pas. Assez clairement, parmi les usagers citoyens de Poussoir, il y a les périurbains. On trouve des représentations très négatives de l'univers périurbain. C'est un espace sans qualité. Le pavillon n'a qu'une qualité architecturale. Il est peuplé d'automobilistes écolo-résistants qui ont fui la ville, la vraie, pour se protéger, pour privilégier un entre-soi communautaire. Leur choix résidentiel est considéré comme inconséquent. Ces ménages périurbains n'anticipent pas correctement leurs dépenses de transport. J'arrête là. Là encore, on a maintenant une somme de travaux académiques qui sont penchés sur cet univers périurbain et qui nous disent assez nettement que ce desserrement de la ville permet aux catégories moyennes et populaires d'accéder à la propriété, que le marché immobilier fait bien preuve d'une préférence pour la densité, et c'est un marché aux enchères, donc ceux qui ne peuvent pas se payer la ville centre s'éloignent. Donc on n'est pas du tout, et puis que ce monde périurbain correspond aussi à un moment d'une trajectoire résidentielle. C'est inexact de raisonner en termes d'idéologie anti-urbaine. Bon, je vais vite sur ça. Donc, ce citoyen périurbain est largement montré du doigt. Et puis là, dans ce que je projette, je suis allée piocher dans un documentaire photographique de Gilles Pathé, Stéphane Argillet, vous connaissez peut-être, où c'est « Quand la ville se hérisse ». C'est le développement de ces espaces publics qui sont conçus pour éviter les stations allongées, pour éviter parfois même de s'asseoir, de s'arrêter. Alors, pour illustrer ces photos en noir et blanc sur le PowerPoint, la RATP a, dans son cahier des charges, explicitement mentionné dans son cahier des charges pour la conception du mobilier urbain que ce mobilier urbain était conçu pour accueillir les voyageurs et eux seuls, que dans un contexte de concurrence entre modes de déplacement, la priorité était au flux de voyageurs et pas, donc sont visés évidemment les SDF, les mendiants, voilà. Donc concevoir un mobilier urbain pour les transports publics qui exclut de lui-même ce type d'usager. Je voulais parler aussi peut-être du stationnement qui illustre bien, alors on nous dit il faut chasser la ville de l'automobile, mais aucun grand projet urbain n'est conçu sans stationnement. Ça peut paraître être un tout petit objet technique, le stationnement. En fait, il y a du stationnement. Tous les projets urbains en centre-ville s'accompagnent d'une offre de stationnement souvent souterraine. Et là, en fait, ce n'est pas une lutte contre l'automobile, contre toutes les automobiles partout. On trouve des mots, une sémantique telle que la voiture ventouse. Alors, la voiture ventouse, c'est celle qui n'a pas un bon taux de rotation. Ce n'est pas celle du chaland, ce n'est pas celle de celui qui vient consommer. C'est celle du résident qui n'a pas de parking privé, ou c'est celle du pendulaire. Qui d'ailleurs sommet de covoiturer ou de s'arrêter beaucoup plus loin dans un parking relais. Donc là encore, sur la question du stationnement, les ambiguïtés des politiques urbaines montrent bien une volonté forte de sélection d'usages et d'usagers. Voilà, c'était l'idée clé. Et puis donc je vais conclure. J'ai dû aller très vite. Donc par rapport à cette controverse française, j'y reviens, qui nous dit que les villes françaises, ce n'est pas des villes américaines, elles sont protégées par une longue histoire de régulation publique. Ben, on aurait l'examen un peu fin de ces politiques urbaines de transport et de déplacement nous amène quand même à penser que cet enjeu de durabilité semble souvent mis au service d'un gouvernement des conduites, et dont une des fonctions centrales est d'opérer un tri social et spatial des usagers en fonction du caractère stratégique de leur activité pour l'image et l'attractivité de la ville. Quelques remarques réflexives conclusives, puisque c'était aussi dans le cahier des charges du colloque. J'ai travaillé sur de nombreuses villes françaises, et ce que je vous projette là, on a l'impression qu'on a... Alors il y a vraiment des tendances lourdes, je pense, mais il y a aussi de la différenciation locale, c'est-à-dire que tous les PDU ne se valent pas. Alors j'ai essayé de travailler sur cette différenciation locale pour essayer de trouver des variables explicatives, pourquoi dans certaines villes on a des politiques un peu plus progressistes et dans certaines villes des politiques plus conservatrices ou plus entrepreneuriales. Alors le bon réflexe de la politiste est de regarder un peu l'histoire longue des couleurs politiques dans ces villes. Les villes de gauche auraient peut-être des PDU plus progressistes que les villes de droite. Ben, c'est pas si simple, ça marche pas à tous les coups. Donc voilà, cette question qui reste ouverte de la différenciation, je crois que les tendances sourdes, elles sont quand même assez nettes. Mais cette question de comment on fait pour aussi rendre compte et puis tirer partie de cette différenciation locale et de certaines pratiques locales où on a par exemple au-delà de la tarification sociale, des prêts gratuits de véhicules, des bons de taxi, voilà, tout un autre volet d'une mobilité entendue comme une question sociale qu'on trouve dans certaines intercommunalités. Et puis dernière, cette question, on est donc moi ma discipline de référence c'est la science politique, et vous voyez que pour renseigner, c'est quand même une thèse un peu forte avec une critique qui se veut pas seulement fragmentaire mais reliée à un cas d'analyse un peu macro, et se pose de manière assez cruciale la question de la dimension évaluative de l'action publique, c'est-à-dire que comment on s'y prend pour être à peu près costaud et dire dans telle ville on a affaire à des politiques progressistes, ici c'est conservateur, ici l'action publique déployée renforce la ségrégation socio-spatiale. Donc moi il se trouve que je suis chercheur dans un institut de recherche qui travaille sur l'objet transport et où toutes les disciplines des transports, notamment la socio-économie des transports, sont présentes. Du coup j'ai des passeurs dans des disciplines connexes qui m'alimentent en résultats statistiques d'enquête ménage déplacement, c'est des choses que je ne sais pas faire, en cartographie, c'est des choses que je ne sais pas faire. Donc tout un tas de collègues passeurs dans des disciplines connexes qui m'alimentent pour tenter d'être un peu costaud sur cette administration de la preuve. Mais ça reste encore une vraie question ouverte. Ce sera le mot de la fin. Quand on va dans certains cercles où il existe la discipline Urban Studies a une existence, on se dit que peut-être ça pourrait être, et c'est aussi la raison de ma présence ici aujourd'hui, de ces disciplines connexes qui ont parfois du mal à échanger, à se rencontrer compte tenu des clivages académiques dans notre pays. Quand on voit certains colloques RC21, Urban Studies, ça fait un peu plaisir et puis ça fait un peu du bien. Et je pense que c'est aussi un passage important pour faire que cette critique ne soit pas fragmentaire. Merci.
Merci beaucoup. Moi,